La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info. Heureux de vous retrouver, toujours fidèle au rendez-vous pour nos débats consacrés à l'actualité nationale. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Monique Iborra, ex-députée de la Haute-Garonne, membre du parti Renaissance, Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. Et enfin, je salue la première dans cette émission de Franck Touboul, président du CRIF Toulouse-Occitanie. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'avoir répondu à mon invitation et merci à Franck Touboul pour sa confiance. Nous allons revenir d'abord sur le discours qu'Emmanuel Macron a prononcé lundi soir à la tribune de l'ONU, où il a déclaré, comme prévu, que la France reconnaissait désormais l'État de Palestine. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État a également promis qu'il ne cesserait jamais, je le cite, le combat existentiel contre l'antisémitisme, et il a annoncé l'ouverture d'une ambassade de France en Palestine, celle-ci étant toutefois conditionnée à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu à Gaza. Il a évoqué l'histoire entre Israël et les Palestiniens depuis la création de l'État hébreu en 1948 et affirmé que la promesse d'un État arabe reste inachevée. Pour le président français, Israël étend ses opérations à Gaza alors que le Hamas a été considérablement affaibli, rien ne justifiant, selon lui, la poursuite de cette guerre sans fin. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours d'Emmanuel Macron et des arguments qu'il a avancés pour expliquer sa décision de reconnaître l'État palestinien dans le contexte actuel de conflits toujours très violents entre Israël et le Hamas? Monique Iborra, vous avez la parole.
Écoutez, d'abord, je voulais dire que, d'abord, merci pour votre invitation et merci pour traiter ce sujet, parce que je crois qu'il reste, il est évidemment d'actualité, mais il reste au niveau des raisons et au niveau du développement, il reste assez méconnu par les citoyens. Par les jeunes en particulier, qui ignorent l'histoire et comment on en est arrivé à cette situation, qui date maintenant de 40 ans, au moins 40 ans, où en effet, le problème des Israéliens et des Palestiniens s'est posé, puisque comme le président le dit dans son rapport, dans sa déclaration, depuis 1947, il était prévu en effet que la Palestine aurait un État, que Israël aurait un État et que ces deux entités pourraient travailler et surtout être présents ensemble sur ce territoire. C'est avéré que ça ne s'est jamais passé réellement et que les combats, la guerre devenant de plus en plus violente, eh bien, évidemment, nous sommes concernés, nous, les Européens, et pas seulement, puisque on sait très bien que les Américains, de ce point de vue-là, ont pris des positions qui sont celles des Américains, mais qui font en effet que ce problème n'est pas encore réglé et que le président a voulu faire ce que jusqu'à présent personne n'avait voulu faire, parce qu'en effet, De Gaulle l'avait dit, tous les présidents de la République l'avaient dit, ces deux États sont absolument nécessaires, mais aucun n'avait pris le problème tel que le prend le président, c'est-à-dire qu'il déclare, en effet, dans cette déclaration, il déclare la Palestine en État. Ce qu'on ne peut pas nier, et qui est quand même à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien le 7 octobre. Que le 7 octobre a été un détonateur extraordinaire, une horreur que tout le monde a partagée et qu'on continue à partager, que le président a dénoncé clairement dans son discours en traitant le Hamas de terrorisme, de terroriste. Il les a traités. Donc, quand aujourd'hui, on essaie de dire que finalement, c'est ce que dit le président des États-Unis, que le fait de reconnaître la Palestine fait plaisir au Hamas et en fait encourage le Hamas, ce n'est pas vrai. En fait, le Hamas a toujours refusé les deux États. Bill Clinton l'avait proposé il y a 30 ans, le Hamas ne le voulait pas. Et on a l'impression aujourd'hui que le président israélien, Netanyahou, ne le veut pas vraiment non plus. Et que la situation de ce point de vue-là, dans la mesure où la Cisjordanie aujourd'hui fait l'objet du fait que le président Netanyahou évidemment agit pour récupérer, montre finalement qu'il veut mettre l'ensemble des acteurs devant le fait accompli et que l'urgence demande, en effet, même si les choses ne sont pas faites et que ce n'est qu'une étape, et qu'elle reste cette étape, elle reste qu'une étape et fragile, eh bien, en effet, le président de la République, le nôtre, a pris l'initiative de déclarer que la Palestine était un État.
Initiative que vous soutenez, si j'ai bien compris.
Oui.
Annie Thomas.
Eh bien, moi aussi, je soutiens cette initiative et l'organisation à laquelle j'appartiens encore, la CFDT aussi, et depuis fort longtemps. Je dirais, ce n'était pas une décision d'opportunité à l'occasion du discours du président, que je salue, hein, et la décision que je salue. C'était une position très ancienne, parce que la CFDT, en lien avec le syndicalisme international, la CSI, la Confédération syndicale internationale, mène tout un travail depuis très longtemps de collaboration entre les syndicats israéliens et les syndicats palestiniens, puisqu'il y a des syndicats palestiniens. Parfois, on se dit, mais la Palestine n'existe pas. Si la Palestine existe, il y a des syndicats palestiniens, il y a une autorité, et la Palestine est reconnue comme État à l'ONU. Si quelqu'un regarde le président devant son bureau l'inscription Palestine, c'est que donc l'ONU a reconnu la Palestine et l'UNESCO aussi, rappelez-vous, ça avait fait l'objet d'un très grand débat. Donc, on est dans un processus de reconnaissance à plusieurs étapes. Et ce processus de reconnaissance, il a été demandé donc par beaucoup d'organisations de la société civile, on l'entend aujourd'hui, de simples citoyens, mais aussi des syndicats. Aujourd'hui, la majorité des syndicats français, constitués au sein d'une intersyndicale, défend cette position et demande bien sûr l'arrêt des combats à Gaza en particulier. Je suis d'accord avec Mme Iborra pour dire que c'est important qu'on ait ce type de débat à votre micro. D'abord parce qu'il y a beaucoup de souffrances et que notre rôle aussi à tous, c'est de faire en sorte que ces souffrances s'arrêtent. Celles qui sont nées après le 7 octobre, celles que vivent aussi aujourd'hui les habitants de Gaza qui sont chassés de chez eux. Cette reconnaissance de l'État de Palestine, c'est un symbole, on est bien d'accord. C'est historique aussi, puisque, comme je le disais à l'instant, ça marque une étape dans tout un processus. Et je l'espère, ça c'est moi qui l'exprime, que ça marquera une étape pour aller justement vers cette cohabitation entre deux États que que la CFDT et d'autres organisations syndicales soutiennent. Parce que c'est comme cela, en rendant chacun sa propre légitimité, en faisant vraiment vrai ce que nous disons que les peuples doivent s'autodéterminer. Hein, c'est une direction qui a mené la France, enfin les peuples aussi pendant très longtemps, dans l'autodétermination des peuples, faire en sorte que justement les Palestiniens puissent s'organiser et vivre eux-mêmes déjà en tant que Palestiniens à côté des Israéliens. Je suis d'accord aussi avec Monique Iborra pour dire que dire qu'il faut deux États ne signifie pas donner d'abord combattre Israël et l'existence d'Israël et la défense israélienne, d'Israël et des Israéliens, et ne signifie pas non plus donner des gages au Hamas ou à toute autre organisation qui, justement, elle n'est pas pour cette situation-là. Mais aujourd'hui, la situation est telle au niveau de la guerre, avec ce jusqu'au boutisme du gouvernement Netanyahou, ce va-t-en-guerre, parfois aussi cette forme d'extrême droite qui est mise en œuvre par certains ministres, qu'aujourd'hui on constate qu'il y a des demandes du mouvement syndical pour aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'intersyndicale qui a travaillé sur cette question au mois de juin a signé un communiqué commun qui demande en particulier l'arrêt de l'accord de collaboration entre l'Union européenne et Israël. Donc la situation est vraiment très grave. Demande aussi l'embargo par rapport aux armes européennes vis-à-vis d'Israël. Donc faisons attention, aujourd'hui l'opinion publique et aussi la société civile est en train d'exiger un certain nombre de points qui vont même au-delà, je dirais, de la reconnaissance de l'État de Palestine et qui peut mettre à mal le travail qu'on peut mener avec l'État d'Israël et la situation même de l'État d'Israël. Donc, reconnaissance de la Palestine, mais aussi à votre micro, alerte en disant cette situation, si elle se poursuit, met à mal, me semble-t-il, l'idée même que nous avons de l'État d'Israël, un État démocratique, hein, qui représente la démocratie dans cette région, et qui pourrait se retrouver avec encore plus d'ennemis qu'elle n'en a, parce que c'est un État qu'il n'en a, pardon, c'est un État qui a des ennemis, nous le savons, mais il pourrait se retrouver aussi avec des opinions publiques mondiales qui soient contre, justement.
Ben, c'est déjà
voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu le cas. Faisons attention, ça ne s'est pas traduit encore par des ruptures de collaboration, de coopération, de partenariat, et même de disputes diplomatiques. Mais cela, il y a une forme de danger.
Ce que vous pointez, c'est un risque d'isolement d'Israël.
Isolement très fort. Et quand on est isolé, on est faible et on est en danger.
Alors Franck Touboul, après ces deux premières interventions et des positions qui m'ont semblé très proches de l'une et l'autre, de Monique Iborra et d'Annie Thomas, vous, qu'est-ce que vous inspire le fait qu'Emmanuel Macron, comme il l'avait annoncé, ait reconnu l'État de Palestine au nom de la France? Et qu'est-ce que vous pensez des arguments qu'il a avancés et même des conditions qu'il a pu mettre à cette reconnaissance?
Bien écoutez, moi j'entends beaucoup de choses, beaucoup de bons sentiments que je partage dans l'absolu sur le fait que la paix, c'est toujours mieux que la guerre, sur le fait qu'effectivement, il faut que les pays cohabitent les uns à côté des autres et que l'image d'Israël est abîmée depuis le 7 octobre. Je l'entends, mais on semble obérer à la fois les causes, mais également qui nous avons en face. Moi, j'ai en face de moi deux dames qui sont des occidentales. Vous êtes de culture occidentale. Vous êtes des engagés politiques dans votre démocratie qu'est la France. Je suis un citoyen français très attaché à ma démocratie et je suis heurté systématiquement quand je vois cette espèce d'hémiplégie que vous avez, quand vous voyez le conflit du Proche-Orient à partir de votre grille de lecture. Vous méconnaissez très vraisemblablement qui sont les adversaires de la démocratie qu'est Israël dans ce Proche et dans ce Moyen-Orient. Alors je vais vous dire qui c'est. Ce sont des frères musulmans, ce sont des islamistes, les mêmes que vous condamnez en Afghanistan, les mêmes qui ont utilisé des armes chimiques contre leur population en Syrie sans que personne ne manifeste dans aucune rue de France. Ce sont ceux qui, le 7 octobre, sont allés dans des maisons, dans des kibbutz, qui étaient la plupart d'entre eux d'ailleurs très favorables à la paix, de façon un peu idéaliste aussi. Mais c'est bien, il en faut. Et j'écoutais avant de venir, vous voyez, je suis tombé par hasard sur Instagram, sur une jeune fille qui parlait à son père au téléphone en lui disant qu'elle était en train de vivre un moment horrible parce que des islamistes étaient en train de la violer, qu'ils avaient levé le visage de son compagnon pour qu'il voie ce qu'ils étaient en train de lui faire et qu'elle souffrait. Et ce que je veux que vous compreniez en vous disant ça, c'est que le traumatisme de la société israélienne face à ses 1200 morts et à ses innombrables blessés est un traumatisme qui est encore très vif. C'est un traumatisme parce que c'est un pogrom absolument terrible et que c'est une violation aussi de ce qu'ils avaient à l'esprit de ce qu'était Israël, un état refuge qui était là pour les protéger après leur histoire tragique et après la Deuxième Guerre mondiale. Ce pays refuge a été violé ce jour-là, en même temps que ces jeunes filles, que ces femmes éventrées, que ces enfants et que ces jeunes hommes. Donc il faut comprendre que dans une démocratie, un traumatisme, ça se paye politiquement. Ça a un impact politique. Dans une dictature, Vladimir Poutine peut faire exactement ce qu'il veut, il peut massacrer autant d'Ukrainiens qu'il veut, il peut kidnapper des centaines d'enfants, il a de comptes à rendre à personne, ça n'a pas d'impact sur ni son pouvoir, ni la durée de son mandat, ni quoi que ce soit d'autre. Je vous dis tout ça pour vous dire quoi ? Je vous dis tout ça pour vous dire que quand on est un gouvernement démocratique, imparfait, à cause de cette proportionnelle intégrale dont nous parlions hors antenne, à cause d'un Premier ministre qui, à bien des égards, est parfaitement critiquable, comme le sont d'ailleurs tous les dirigeants, nous en parlions aussi hors antenne, puisque nous parlions d'Emmanuel Macron, et en matière de critique à son égard, personne ne s'en prive, à juste raison ou pas. Eh bien, ce Premier ministre a le devoir de défendre son peuple et de répondre aux attentes de son peuple. Imaginez plus d'une dizaine de milliers de morts en France le 7 octobre. Imaginez qu'avant le 7 octobre, pendant plusieurs années durant, des missiles tombaient sur les villes frontalières de la Belgique et de la France ou des autres frontières que vous connaissez en France. Imaginez que pendant des années, vous receviez autant de missiles que les gens ont communément l'habitude d'appeler roquettes, ça sonne bien et ça ne fait pas très peur aux gens. Et comme ils ont le dôme de fer, on se dit finalement c'est pas très grave, ils reçoivent des missiles mais c'est pas très grave. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne peut y avoir un État palestinien que s'il y a en face des Palestiniens qui ont envie d'avoir un État dans les frontières qui leur a été proposées, vous évoquiez Monique de façon imparfaite le plan de partage, qu'ils ont refusé systématiquement et qui, à défaut d'avoir accepté le plan de partage, n'ont eu comme effet que de déclencher de multiples guerres avec des alliances de pays arabes contre ce petit État qui n'est pas plus grand que la Haute-Garonne. Je veux que vous compreniez aussi, avec beaucoup d'humilité, que ce pays tente de s'extirper d'une condition géopolitique exsangue, parce que la géographie, c'est important aussi, la promiscuité de tous ces pays. Vous ne la mesurez pas. Peut-être vous, Monique, vous la mesurez, parce que vous vous êtes rendu très souvent en Israël. Mais cette promiscuité, elle est de l'ordre de la salle de bain à la cuisine. Il faut comprendre que Gaza, c'est 2-3 kilomètres. Imaginez vivre à 2-3 kilomètres de gens qui sont à des années-lumière de votre culture occidentale, qui sont à l'âge de pierre, qui sont au Moyen-Âge de la civilisation et qui ont un rapport à la mort qui n'a rien à voir avec le rapport à la mort que l'Occident peut, au fil des siècles, avoir sédimenté dans nos esprits et dans nos cerveaux. Ces gens-là n'en ont que faire de la vie. La seule cause qui compte pour eux, c'est l'éradication de l'État juif sur cette terre qu'ils considèrent comme étant la leur. De la même façon que dans les siècles qui viennent, ils n'en auront rien à faire de la culture occidentale dans les pays d'Europe qu'ils sont en train de conquérir. Que vous le vouliez ou non, que vous ayez une idéologie de droite ou de gauche, Monique me connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir quelle est la mienne. Nous sommes en train d'assister à l'initiative des frères musulmans, dont j'ai oublié de vous porter le rapport qui a été rendu public par le ministère de l'Intérieur et commandé par le président de la République, ils sont en train d'organiser une stratégie d'invasion idéologique de l'islam. Les frères musulmans sont à la tête du Hamas. Le Hamas, c'est une organisation, une émanation armée des frères musulmans. Vous devez comprendre ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement israélien. Les arguments que j'aurais pu développer maintenant sont incalculables pour justifier de ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Sur cette radio, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous dire que ce qui est en jeu pour nous, c'est notre civilisation. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne voulez pas comprendre que la civilisation, la pointe de ce combat, est aujourd'hui en train de se passer dans cet endroit géographique du monde, alors ce n'est pas grave, parce que vous êtes en train de le subir et nous sommes en train de le subir de façon un peu éparse, un peu diluée au fil des années. Mais dois-je vous rappeler combien de morts la France compte depuis une vingtaine d'années ? Est-ce que ça ne nous suffit pas, plus de 300 victimes ? Est-ce que ça ne nous suffit pas pour lever la tête et dire à un moment donné, il y a un danger prégnant ? Alors que faire ? Baisser les bras ? Laisser Emmanuel Macron faire une gesticulation diplomatique aux Nations Unies qui n'a aucun impact, puisque vous le disiez, madame de la CFDT. Qu'est-ce que vous nous avez dit pendant votre préambule ? C'est que l'État de Palestine a son panneau aux Nations Unies. Il s'exprime aux Nations Unies, il a l'occasion de participer à des réunions. Alors à quoi consiste cette déclaration solennelle de reconnaissance de l'État palestinien ? Ça ne rime à rien, ça n'est que de la communication. Et pour quelle communication, pour quel usage et pour quel public ? Bien évidemment se faire applaudir à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies parce qu'il aime bien, mais aussi pour satisfaire une rue dont il pense qu'elle est hostile. Souvenez-vous de la raison qu'il avait avancée pour sa non-participation à la grande marche de lutte contre l'antisémitisme en France. C'était de ne pas provoquer la rue arabe. Nous en sommes là, dans notre République, de renier une partie de nos principes, de s'asseoir sur la gravité de ce qu'est l'antisémitisme pour une population qui, je le rappelle, représente moins de 1% de la population française et qui occupe aujourd'hui, quotidiennement, l'actualité. Et aujourd'hui, les Juifs en France, c'est l'instrument, c'est la variable d'ajustement de la classe politique. Vous avez un RN qui cherche à se blanchir et à briser son plafond de verre en caressant dans le sens du poil les Juifs de France, pensant qu'ils peuvent voter pour elle demain. Vous avez la France insoumise qui, pour gagner un électorat communautarisé et musulman, tape sur les Juifs pour espérer devenir le nouveau parti des Maghrébins et des Arabo-musulmans des quartiers. Vous avez un Olivier Faure qui sent que le bateau tangue, alors il se sert des Juifs et des fêtes juives pour essayer de dire ben « moi aussi j'aimerais bien ma petite part du gâteau ». C'est scandaleux la façon dont les Juifs sont traités dans ce pays alors qu'ils ne demandent rien. Moi je rêverais ce soir d'être chez moi et de ne pas avoir à plaider dans cette affaire. Je rêverais de ne plus, depuis 2023, ne plus dormir parce que j'ai vu des images qui sont abominables et de ne plus voir les jeunes de ma communauté qui ont 19, 20 ans, 21 ans se dire « pourquoi je passe le barreau alors que s'il faut, dans un an, dans deux ans, je vais devoir quitter mon pays ».
Oui. Alors, il y a une chose sur laquelle on viendra peut-être avec vous, Franck Touboul, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait précisé qu'il ne cesserait jamais le combat existentiel contre l'antisémitisme. En venant de vous écouter, j'ai l'impression que vous avez quelques doutes sur la question. Monique Iborra et après non, Annie Thomas, parce que évidemment vous voulez réagir à ce que vient de dire Franck Touboul.
Je connais Franck depuis longtemps. Je comprends parfaitement son intervention parce que... L'antisémitisme aujourd'hui, on en parle beaucoup et il est effectif. Oui, 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 et il monte. Et en fait, on ne peut pas accepter cette situation. Seulement, il faut en chercher aussi la cause. Et moi, là où je ne peux plus...
Attention, parce qu'à chercher les causes, on justifie. Et ça, ce qu'Emmanuel Macron a fait, parfois, c'était à la limite. Parce qu'il n'y a aucune raison, on peut être d'accord être en désaccord avec quelqu'un, mais on ne peut surtout pas lui envoyer à la figure sa religion ou l'agresser ou quoi que ce soit. Donc il faut faire très attention.
Si ce n'est que l'antisémitisme a grandi aussi avec la situation d'aujourd'hui qui se situe en Israël et en Palestine. Qu'on le veuille ou non.
Emmanuel Macron porte cette responsabilité,
Monique. Emmanuel Macron ne porte pas cette responsabilité, en tout cas tout seul. Je pense que l'attitude du Premier ministre israélien ne fait que rendre beaucoup plus grave cette situation, dans la mesure où, finalement, à partir du moment où, et c'est un peu ce que tu as dit, tutoyer, je te connais depuis longtemps. Dans la mesure où, en effet, on a l'impression, et que les Palestiniens, on le sait, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils veulent la destruction d'Israël.
Merci.
Nous le savons.
Voilà.
Mais dire que Emmanuel Macron est responsable de ça, là, je ne peux pas l'entendre. Par contre, un qui est responsable de ça, c'est quand même aussi le Premier ministre. Dans la mesure
Israël,
où...
Israël, vous voulez dire, pas chez nous.
Israël.
Netanyahou, bien entendu, dans la mesure où, aujourd'hui, il veut mettre tout le monde devant le fait accompli, c'est-à-dire aucune possibilité pour les Palestiniens d'avoir leur État. Or, là où je ne peux pas te suivre, c'est quand on a l'impression que les Palestiniens et le Hamas font forcément chose commune.
Cause commune.
Et
ils ont été élus.
Oui.
Ouais.
Je crois que on ne peut pas faire un raccourci comme ça.
Je n'ai pas fait ce raccourci, mais par contre, je peux nuancer. Je peux expliquer pourquoi j'ai dit quelque chose qui ressemble à ça.
Je finis. Oui. Mais tu as fait ce raccourci. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas non plus l'accepter. Moi, je crois que l'attitude de Netanyahou fait monter les extrêmes dans notre pays. Que comme tu l'as dit, ça sert à Mélenchon, évidemment. Ça sert aussi le Rassemblement national qui espère récupérer les votes des Juifs en France, évidemment. Et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'en ai bien peur. Et que donc dire que Emmanuel Macron, parce qu'il a proposé en fait ce que tout le monde a préconisé, de reconnaître un État en disant que le Hamas était des terroristes, que d'autre part, il fallait
démilitariser,
et qu'il proposait un plan. Ce plan qui est d'ailleurs repris en partie par le président des États-Unis qui dit tout et le contraire de tout, qui dit n'importe quoi. Il est en train de reprendre le plan de Macron.
Oui.
Alors non, moi, je ne peux pas entendre dire que Macron est responsable de ce qui se passe et là-bas et ici.
Pour revenir à ce qu'a rappelé Franck Touboul, est-ce qu'il n'a pas fait quand même une erreur en n'allant pas participer à la marche contre l'antisémitisme?
Je suis sûr que Monique est d'accord là-dessus. On va voir si elle est honnête.
Bien sûr,
évidemment que tu es d'accord.
Il a expliqué en disant...
Quoi?
On le croit. Non, moi, je n'ai pas entendu ça jamais de ce que tu as dit. Par contre, je l'ai entendu dire récemment à la télé à BFM en disant « c'est pas le rôle d'un président de la République de faire des marches, je n'en fais aucune et je n'en ferai aucune ».
Fut un temps, toi et moi, nous étions mitterrandiens et nous n'avions rien trouvé à redire lorsque Mitterrand était descendu dans la rue pour Carpentras.
Mais moi, je pense
donc l'époque a bien changé et c'est dommage.
Ça, c'est vrai.
Non, je pense que c'est pas si important que ça.
Oh, si.
Ce sont les actes...
Parce qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences.
Alors, ce que je retiens tout de même, ce que vous avez dit, Monique Iborra, et je passe la parole à Annie Thomas ensuite, c'est que j'ai l'impression, en vous écoutant, que la politique que mène Netanyahou et son gouvernement à Gaza ferait qu'aujourd'hui, en France, on pourrait être antisémite en toute bonne conscience, en ayant l'impression d'être dans le camp du bien.
Mais voilà.
Mais évidemment, je le maintiens, évidemment... Évidemment,
c'est tout à fait
instrumentalisation de ce qui se passe là-bas qui aujourd'hui est contre-productif par rapport justement à tous les Juifs de France.
Annie Thomas.
Alors, on savait en venant ici que ça allait être un débat difficile. Et on entend à travers ce qu'on peut dire les uns les autres la souffrance qui s'exprime. Et on peut comprendre, moi la première,
le
traumatisme, le mot fort a été prononcé. C'est un traumatisme, oui, dans un pays qui effectivement était chargé de protéger justement les personnes qui se vivent juives. Et M. Netanyahou a beaucoup joué sur ça, justement, pour dévaloriser la France en disant « ne restez pas en France, c'est un pays antisémite, venez en Israël, vous serez protégés ». Vous voyez, parfois, il faut se taire, il ne faut pas dire des choses de ce type-là.
Cela dit, il y a des juifs de France qui partent dans un pays en guerre plutôt qu'en France.
Voilà.
On peut se poser aussi des questions
par rapport
à ça.
Oui, bien sûr, mais attention à l'exploitation de ce type de sujet. Donc j'entends le traumatisme, j'entends la souffrance, mais j'aimerais qu'on entende aussi la souffrance des familles, des parents, des enfants, des mères qui sont à Gaza.
Alors je vais y venir, moi, parce que je n'ai pas complété, mais quand viendra mon tour, rappelez-moi de parler
bien
de
sûr.
Ça.
J'aimerais qu'on ne passe pas cette question avec un discours qui dirait que toute cette population obéit à un culte de la mort et que peu importe la situation, il s'agit que les idées politiques triomphent et on est prêt de faire don de sa vie, de ses enfants. C'est faux. Nous savons que c'est faux. On voit la souffrance des gens, on l'entend la souffrance des gens et on sait que c'est impossible. Certes, des personnes endoctrinées qui sont dans le Hamas, des responsables, des soldats, oui, ils pensent ça certainement. Mais ne pensons pas que toutes les populations civiles, et en particulier, on parle de 60 000 morts. Ces 60 000 morts, peut-être c'est moins, peut-être c'est plus, je vous l'accorde. Mais malgré tout, c'est énorme et c'est une tonne de souffrance.
Sachant qu'il y a des combattants
donc,
du Hamas
faisons, aussi. Oui, bien sûr, mais faisons attention. À ces raccourcis. La société va très vite. Des personnes dont on pense qu'elles sont encore au Moyen-Âge, elles ne le sont plus. Elles ont tout un téléphone, elles ont tout un portable, elles ont tout un ordinateur. Elles sont éduquées, elles lisent, elles écoutent. Attention à ce type de discours. Certes, il y a une différence de niveau de vie. Certes, il y a certainement des différences sociologiques importantes,
mais que je pense
quand même en lisant les enquêtes aujourd'hui sur la population d'Israël, que même Israël aujourd'hui, avec les Hassidim, a des problèmes aussi avec une partie de sa population en termes de culture.
Vous parlez des ultra-religieux.
Des ultra-religieux, en termes justement d'idées préconçues sur un certain nombre de choses. Donc, je veux dire, faisons très attention à ça. Un mort, c'est un mort, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit un enfant, qu'il soit un homme, il a droit à notre respect. Donc, attention à cette manière de porter ça. Et je continue, si vous permettez. La solution militaire, ça fait 75 ans qu'il y a une guerre et que ça n'arrête pas. Parfois, il y a des accords, parfois, il y a un accord de paix, parfois, il y a des résolutions de l'ONU, mais c'est quand même 75 ans. On voit bien que la solution militaire ne marche pas. Et même si l'État d'Israël, et il n'a pas encore persuadé tout le monde, et le chevalier blanc qui est en train de tuer aujourd'hui tout le danger islamiste, et je le redis, il n'a pas persuadé tout le monde qu'il le fait, et que c'est lui qui le fait, parce que je suis d'accord avec Monique, en faisant cela, il anime une nouvelle haine, il anime d'autres populations qui vont haïr et qui vont détruire non seulement Israël, mais peut-être la culture occidentale de tout point. Donc,
alors,
nous sommes lucides.
Faire,
monsieur,
il faut baisser les bras et laisser les islamistes gagner des parts
face au terrorisme
et des territoires, parce que depuis 75 ans, ils n'ont jamais voulu
eux de pays. C'est la démocratie qui gagne.
Écoutez, face au terrorisme,
ce n'est pas la réponse du terrorisme qui va tuer le terrorisme, qui va arrêter le terrorisme. En plus, la solution militaire ne va pas.
Quand vous recevez des missiles chez vous, allez le dire aux femmes et aux hommes qui passent leur vie dans des bunkers, au rythme des alertes.
Écoutez.
Dans un pays démocratique.
Je pense qu'il faut regarder tout. Attention, hein. Ouais. Il faut tout regarder. Et la réponse que nous nous sommes donnée en Occident, et c'est pour cela que nous sommes fiers de notre culture,
alors oui,
c'est
la
démocratie
réponse. Ah oui. Et quand
qui
il
répond
a fallu, et quand
à
il
cela.
A fallu massacrer Daesh, quand la France a participé à des bombardements massifs et aveugles parce qu'ils n'avaient pas le courage d'envoyer des soldats
mais
sur
monsieur,
le terrain, et
je
qu'on
m'excuse,
a tué
mais il y a eu des résolutions.
On a tué sans
non,
discernement
non,
à coup de bombardement des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Quand François Hollande est allé au Sahel et au Levant, il a dit c'est le plus beau jour de ma vie quand il a été accueilli par les gens du Sahel. On a tué Daesh, la branche armée de Daesh au Sahel et au Levant.
Est-ce que
mais
ça
tout le monde a dit bravo,
est-ce
quel
que
courage à la France d'envoyer ses soldats pour tuer les islamistes de Daesh. Et quand Israël, alors que François Hollande n'était pas attaqué dans son pays.
Monsieur Touboul, je ne vous ai pas.
Donc je vous laisse
terminer.
J'entends, hein. Mais si vous répondez au terrorisme par le terrorisme, c'est toute la démocratie qui perd.
Mais ça n'est pas du terrorisme.
Les actions que vous...
C'est une action militaire.
Excusez-moi, mais les actions que vous mentionnez, au Proche-Orient ont été soutenues par des résolutions de l'ONU, dont il y a la diplomatie internationale qui a décidé un certain nombre de choses. Les accords, l'intervention de la France au Sahel venait après des accords entre le gouvernement français et les gouvernements de ces pays-là.
Là, ce madame, vous pas... allez sur un terrain qui vous allez être perdante d'office.
Mais je ne
parce
suis
que
pas perdante.
Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un accord international sur l'intervention des États-Unis en Irak où les Britanniques, etc.,
parle...
sont allés tabasser parlez... et renverser deux régimes, etc., après
monsieur,
le 11 septembre.
Vous me parlez...
Je ne vous entendais pas parler de droit international
à ce
moment-là.
Vous me parlez de l'intervention de la France. Je suis en train de parler de la France.
Et de l'Occident.
Je
vous parliez
parle...
de l'Occident et vous parliez des démocraties mondiales
qui
s'honorent de ne pas agir.
Je vous dis le danger pour les démocraties mondiales et l'Occident. Je vous parlais de la France, des décisions que la France a prises. Rappelez-vous que la France... n'a pas soutenu la position américaine en Irak.
Oui.
Est-ce que je dois rappeler M. de Villepin?
Non, mais c'est bon, ne me rappelez surtout pas M. de Villepin, parce que quand il s'agit de défendre les pays arabes, c'est pas grave s'ils sacrifient la France.
Et puis la question de l'antisémitisme est une question très difficile. Je pense que pour bien combattre quelque chose, il faut bien le nommer. Aujourd'hui, on ne peut pas qualifier d'antisémites les personnes, les institutions... qui se prononce pour la reconnaissance de l'État de Palestine.
Madame,
non, certainement
madame,
pas.
Est-ce que c'est mon tour?
Allez-y, voilà. On va conclure d'ailleurs sur ce débat.
Madame, il ne faut pas me servir des clichés de ce type. La haine du
ce
juif...
Le roi d'Espagne qui s'est exprimé hier à la tribune, il n'est pas un antisémite.
Mais non, mais bien sûr que non.
J'espère que vous êtes d'accord avec lui.
Et son père a demandé pardon 500 ans après, en rendant les clés dans la ville de Tolède, après l'expulsion des juifs d'Isabelle la catholique.
Et en 2015...
Mais le roi d'Espagne, ça ne vous a pas échappé, ne fait pas de politique. Il a un poste honorifique. En revanche, son premier ministre, Pedro Sanchez, qui passe son temps à essayer de se maintenir au pouvoir avec des alliances alambiquées, à une ou deux voix près, passe des accords et lui est obligé de servir une rue hyper ultra-gauchiste et une partie de la rue arabe pour se maintenir au pouvoir. Mais je veux revenir sur ce que vous disiez, c'est
bien
plus
d'accord,
important.
Le roi d'Espagne n'est pas
moi,
antisémite.
Moi, je ne vous ai pas interrompu.
Concluez,
mais si, je plaisante, je vous interromps.
C'est
pour ça que je vous dis ça en plaisantant.
Vous pouvez vous
interrompre. Je veux vous dire plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de réponse terroriste à un acte terroriste. Une démocratie se défend. Non, madame, vous pouvez pas faire non, comme si vous n'étiez pas convaincu. Quand il y a une armée,
ce qui se passe à Gaza, comment vous le qualifiez?
Je vais vous répondre de ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza, madame, ce qui se passe à Gaza. Et les victimes dont vous parliez tout à l'heure, sur lesquelles je veux apporter moi aussi un point de précision. J'en parlais avec madame Iborra ce matin. Les morts civiles, un enfant. Et je ne vais pas vous dire cette formule comme le disent les autres pour s'en débarrasser après, pour pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire en disant la mort d'un enfant, c'est un enfant. Je suis un hypersensible et la mort d'un enfant, elle est évidemment horrible, inexcusable, inacceptable. Mais il faut, une fois qu'un enfant est mort, connaître le coupable. Et c'est là que votre regard soudainement se trompe. Et regarde en permanence vers le bon coupable idéal qu'est Netanyahou, parce que ça fait l'unanimité, tout le monde est content, tape sur Netanyahou, tout va bien. Ce n'est pas celui qui tient, qui lance le missile qui est le responsable, c'est celui qui fait en sorte que le missile soit lancé sur son pays quand il était tranquille. Gaza est sous gestion palestinienne depuis 2005. Il n'y a pas eu de guerre à Gaza depuis 2005, ils étaient autonomes, ils avaient la gestion de leur territoire. Le 7 octobre est arrivé, Israël s'est défendu, mais quand le Hamas a vu que la supériorité militaire et pas terroriste, madame, s'est défendue suite à l'attaque du 7 octobre, eh bien, quand on perd une guerre, on dépose les armes. Et quand on détient, parce qu'aucune d'entre vous n'a dit depuis le début de cette émission qu'il y avait encore des otages, je ne vous souhaite pas d'être otage dans les tunnels de Gaza. Je ne vous le souhaite pas une seconde. Non, mais vous n'en parlez pas. Je ne vous le souhaite pas. Il n'y a pas d'allons, madame. Il y a des vies humaines. Il y a des familles entières qui sont
brisées. Tous les communiqués de la CFDT qui évoquent les otages.
Les communiqués, c'est une chose, madame. Mais quand Emmanuel Macron, puisque c'est de lui pour lequel nous sommes réunis ici pour en parler. Quand il fixe des conditions à la reconnaissance de cet État palestinien, il les fixe lui-même. C'est pas moi qui les lui fixe. C'est pas monsieur le journaliste qui les lui fixe. C'est lui qui les fixe. Et il s'auto-mutile de ses propres mots et il décide finalement, sans aucune raison, alors qu'aucune de ces conditions n'est réunie, il décide de reconnaître l'État de Palestine. Madame, quand même, un peu d'honnêteté intellectuelle, quand on fixe des conditions et qu'on ne les respecte pas et qu'on vient devant la tribune de l'Assemblée, un instant, je termine, c'est mon rôle, c'est mon tour, et qu'on fait ça, et qu'on fait ça, on trahit sa propre parole. Et en trahissant sa propre parole, on est à 15% d'opinion favorable dans le pays, on a 72% des Français qui récusent la reconnaissance de l'État palestinien sans condition, et on laisse les otages croupir. Je rappelle au passage que plus de 40 Français, madame, c'est peut-être des sous-Français, 40 Français ont été tués le 7 octobre, et tout le monde l'a déjà oublié, et la seule chose qui intéresse,
la seule chose qui intéresse
l'opinion publique occidentale aujourd'hui, c'est Netanyahou, la guerre à Gaza, les victimes de Gaza. Moi, je vais vous dire une chose, les victimes de Gaza sont victimes à Gaza, mais pas d'Israël. Elles sont victimes du Hamas. Et la moue que vous faites en me regardant atténue la responsabilité du Hamas. Et c'est inacceptable,
non,
parce que le Hamas est le seul responsable. Vous avez dit, Madame Iborra, quand vous aviez pris la parole il y a quelques minutes, que évidemment, les Palestiniens, le Hamas, vous ne croyez pas aux deux États, ne veulent pas d'un État juif à leur côté. Madame, le Hamas ne veut pas d'un État juif à ses côtés. Il veut « from the river to the sea ». Vous ne voulez pas l'entendre, ça ne vous arrange pas, tant pis. Ça ne sert pas l'idéologie
nous
de votre centrale
savons.
Syndicale. Tant pis.
Nous ça le nous, savons.
L'attitude de Netanyahou vous dérange. Tant pis. Il doit remplir sa mission, que ce soit lui ou un autre. C'était quoi sa mission, madame, après le 7 octobre? Et j'en termine. Et vous comprendrez pourquoi je termine avec ça. C'est nous devons éradiquer le Hamas. Tant que le Hamas est debout, tant qu'il peut envoyer des roquettes sur Ashkelon ou sur Ashdod, il n'a pas rempli sa mission. Demain, il y aura un autre gouvernement. Et je vais vous faire une confidence à l'antenne. J'appelle de mes voeux le plus vite possible une élection législative en Israël. Vous savez pourquoi j'appelle à une élection législative anticipée en Israël? Et pas en France, parce que c'est déjà le bordel. C'est pour que si demain Netanyahou part, il y aura un autre Premier ministre. Et je ne vous laisse pas plus de 15 jours pour honnir ce futur Premier ministre comme vous honnissez Benjamin Netanyahou, alors qu'il remplira exactement la seule mission que sa population attend de lui, c'est sécuriser sa population, sécuriser ses frontières et éradiquer ses ennemis.
Ça
autour.
Ne marche
non,
pas,
non,
monsieur.
Non, justement.
La guerre
on
à outre.
Là,
non, on très vite,
alors,
mais je ne peux pas laisser dire
allez-y.
Ça. Ce n'est pas possible.
Quand tu dis que Macron a trahi,
je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça. Pourquoi en effet? Il l'explique parfaitement et tu l'as lu et tu le sais. Il explique pourquoi l'urgence. Pourquoi l'urgence? Tout simplement. Et tu le sais ça aussi.
Non.
Parce que Netanyahou est en train. Alors que il a, et là on ne peut pas le reprocher, il a tué le Hamas pour le moment. Parce qu'une idéologie, ça ne se tue pas uniquement en tuant les têtes. Et à mon avis, ça reviendra malheureusement. Il a fait son boulot. Par contre, là, il aurait pu dire « cessez le feu ». Eh bien non, il ne le dit pas. Et il annexe la Cisjordanie. Ça veut dire que lui ne veut pas non plus... comme le Hamas, ne veut pas non plus de deux États. Et à partir de là, ou bien on ne fait rien et on dit ben, qu'ils se tuent entre eux et tant pis pour eux, ou bien on fait quelque chose en sachant que ça ne va peut-être pas marcher, mais qu'on ne peut pas, quand on est responsable, et Macron est responsable dans ce cas-là, on ne peut pas ne rien faire et il fait.
Enfin, deux États, il faudra aussi voir qui va diriger les deux États en question.
Mais c'est la question de demain. On ne peut pas aujourd'hui régler toutes ces questions. Il ne faut pas gager l'avenir en engageant,
question,
justement en disant c'est pas parce que ça ne va pas marcher, c'est pas parce qu'il ne va pas y avoir une école, c'est pas parce que si, parce que là, qu'on ne peut pas faire. Non, là, c'est une erreur, c'est de l'impuissance, ça.
Vous voyez, il s'est déroulé un événement aujourd'hui dont on a moins parlé en France que la tonitruante déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est passé une réunion, bizarrement, vous voyez, la réunion d'Emmanuel Macron devait se tenir avec le roi d'Arabie Saoudite. Ben, il n'est pas venu,
qui est
finalement.
Qui n'est pas venu et qui a envoyé son ministre
et finalement, où il est, quand est-ce qu'il est venu? Le lendemain.
Oui.
Il est venu avec qui? Il est venu avec, vous souvenez-vous,
avec
du quartet
Trump.
Avec
Trump.
Non, souvenez-vous de Tony Blair. Tony Blair qui était chargé de la paix au Proche-Orient. Il est venu faire une grande réunion de travail.
J'allais en parler.
Avec une gestion... tripartite ou avec quatre intervenants, un représentant des Palestiniens, un haut responsable de l'ONU, une forte représentation musulmane pour garantir la légitimité régionale, avec une autorité suprême sur Gaza, des compétences de gouvernance civile, une reconstruction, une aide humanitaire, la sécurité.
Oui, pourquoi
voilà
faire
ce que je crois être la première étape de ce que vous appelez de vos voeux, mais sans être dans l'incantation et dans le moralisme, c'est qu'il faut que des gens... C'est-à-dire un pays comme l'Arabie Saoudite qui représente l'islam dans ce qu'il a de plus important et de plus incarné avec la Mecque. Que un certain nombre de représentants internationaux prennent Gaza en main, reconstruisent Gaza.
C'est exactement
surveille,
ce que propose Macron.
Bien sûr, attends, oui, mais sauf qu'il n'y est
dans
pas.
Le plan.
Sauf qu'il n'y est pas.
Ben oui.
Il s'est fait rouler dans la farine.
Non, il s'est fait rouler rien du tout.
Mais c'est un plan de gouvernance internationale de sécurité
en fait,
Gaza.
Donc
Trump,
il n'y a pas, comme vous le disiez, comme
Trump
tous les fantasmes le disent, la volonté d'Israël de réoccuper Gaza, de construire une riviera. Israël est parti de Gaza et est bien contente d'être parti de Gaza. Et je rappelle que comme c'est une démocratie, quand elle a signé un accord et qu'elle est partie de Gaza, elle a démantelé les habitations juives qu'il y avait à Gaza en laissant les maisons pour les Palestiniens. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, madame? Qu'est-ce qu'ils ont fait des milliards?
Qu'est-ce que madame, Israël est en train de faire de
mais
tout
madame,
ce territoire?
Qu'est-ce qu'ils ont fait des milliards qui ont été déversés sur Gaza? Moi, je veux vous dire une chose, madame. Il y a chaque Palestinien touche à peu près 700 euros des Nations Unies. Combien touche un Soudanais qui vit 10 fois plus de victimes et qui vit l'enfer depuis combien d'années? Il touche 54 euros. Vous savez combien touche un Congolais dans le cadre de la guerre civile qui se déroule actuellement? Il touche 30 euros. Alors pourquoi un enfant noir du Congo vaut moins cher qu'un enfant de Gaza? Moi, je veux vous dire une chose, le deux poids deux mesures que vous dénonciez en début de propos, il est là. Il est que dans l'Afrique des Grands Lacs, depuis 10 ans, c'est plus des lacs d'eau qu'il y a, c'est des lacs de sang. Il y a des millions de morts dans l'indifférence absolue. Et de quoi parle-t-on dans l'Occident matin, midi et soir? C'est des 40 000 morts à Gaza, dans lequel il y a plus de 20 000 combattants du Hamas, dans lequel il y a des morts naturelles, dans lequel il y a des dommages collatéraux, parce que ce que vous aviez condamné au début comme étant une accusation d'Israël et qui s'est avérée une vérité, c'est que les hôpitaux servent de bouclier humain, c'est que les mosquées servent de bouclier humain, c'est que les églises, ça permet d'étendre la nature du conflit et de ramener à soi les chrétiens pour racoler à la cause palestinienne, etc., etc. Et tous ces boucliers humains, tous ces enfants qui servent de bouclier humain, ça, vous ne les condamnez pas quand c'est les Hamas qui les utilisent.
Alors, je condamne l'utilisation de tout.
Le standard, il est là.
Vous exagérez.
Mais voilà ce que les palestiniens. Le palestinisme occidental est
non,
en train
non,
de
arrêter. Arrêtez. Vous nous traitez de naïfs et de je ne sais quoi et de arrêtez.
Bon,
là, franchement,
arrêter,
il faut arrêter parce que c'est.
Mais j'invite nos auditeurs à effectivement aller se documenter sur s'informer sur le plan que porte Tony Blair. Ça peut être intéressant. La GITA, vous appelez GITA, Tony Blair.
GITA, exactement. GITA.
Et vous verrez gouvernance internationale et sécurité renforcée.
Nous verrons ce qui va rester demain. Nous verrons ce qui reste.
Mais pourquoi seriez-vous pessimiste en la matière?
Non, je ne suis pas pessimiste, je ne connais absolument pas ce projet.
J'ai envie d'y croire.
Non, je ne suis pas pessimiste.
Je pense qu'il faut étudier
tout ce qui peut amener
sorties,
la paix et arrêter
à cet
tout
horrible
ça,
conflit.
Ça ira.
En tout cas, on verra bien si la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron au nom de la France aura une portée autre que symbolique.
Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de rendre Macron responsable de tout.
Il est responsable de rien. Mais c'est surtout qu'il est responsable de rien.
Non, c'est faux de dire ça.
On fait la pause, il y a un autre sujet, on va le traiter rapidement. Pause maintenant dans cette émission. Retour au direct dans une vingtaine de secondes avec mes trois invités. A tout de suite.
La mêlée de l'info. Éric Dupri.
Je t'assure.
Retour à l'antenne avec mes trois invités. C'est encore un petit peu agité. Je ne suis pas sûr que le sujet suivant va calmer les esprits. Donc on se retrouve avec Monique Iborra, Annie Thomas et Franck Touboul pour continuer nos échanges autour d'un sujet en lien direct avec le précédent, puisque en marge du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU, où celui-ci a donc déclaré que la France reconnaissait l'État de Palestine, la journée du 22 septembre a également été marquée par un autre événement sur notre sol, celui-ci. Plusieurs dizaines de mairies, de villes moyennes ou de grandes métropoles, très majoritairement à gauche, il faut bien le dire, ont pavoisé le fronton de leur hôtel de ville avec le drapeau palestinien, et ce, le jour même de la fête juive Rosh Hashanah, au grand dépit de nombreux juifs français. Cette action qui avait été annoncée et qui était soutenue, entre autres, par des personnalités politiques telles qu'Olivier Faure, le patron du PS, était-elle légitime selon vous, ou la considérez-vous au contraire comme une provocation aussi inutile qu'illégale ? Annie Thomas.
Écoutez, c'est un peu la suite quand même du débat précédent, mais je vais essayer de l'aborder plus calmement, si vous permettez. D'abord pour dire qu'en termes de droit sur cette question, qui n'est pas une question nouvelle, puisqu'elle s'est déjà posée, elle est déjà allée devant. Voilà.
Non, ce n'est pas exactement pareil pour l'instant.
Effectivement, même, attendez, vous allez voir, même le drapeau ukrainien, j'y viens, dont les juges ont rendu des jugements en la matière de plus complexes que ce qu'on croit et que ce qu'a voulu dire d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. D'abord, dans la loi, il n'y a rien sur les drapeaux qui peuvent figurer sur une mairie. Ce qui a été invoqué par M. Retailleau, c'est la neutralité, bien évidemment, des services publics, tout simplement. Là, mais on est à la limite du service public, on est bien d'accord.
On parle de collectivités.
Donc, les juges ont rendu des avis différents sur ces questions parce que les juges ont été saisis. Puisqu'il n'y a rien dans la loi, c'est donc la jurisprudence qui s'impose. Les juges ont été saisis, par exemple, nous avons plusieurs exemples. En Guadeloupe, au moment où il y a eu des troubles, vous vous souvenez, une mairie a voulu ériger sur le fronton de la mairie un drapeau guadeloupéen qui était un drapeau un petit peu de soutien. La justice a refusé. Le drapeau ukrainien, vous le savez, n'est-ce pas, je n'invente rien, a été érigé au fronton de nombreuses mairies en France et d'ailleurs dans le monde. Et le tribunal de Versailles a été saisi de cette question-là et a jugé que, oui, ce drapeau pouvait rester. Je n'évoque pas les drapeaux israéliens à Nice, vous l'avez fait en passant. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a des jugements différents suivant les contextes. Et on voit aussi, à travers les jugements, que quand il y a des pavoisements qui sont temporaires, la justice ne dit rien et les préfets ne disent rien. J'ai un exemple très particulier. Mon mari est américain, nous sommes allés plusieurs fois en Normandie et les mairies en Normandie, en particulier le mois de juin, sont toujours pavoisées avec le drapeau américain. Donc aujourd'hui, il y a une tolérance en Normandie avec le drapeau américain.
On voit aussi un peu partout le drapeau ukrainien aujourd'hui.
Bien évidemment. Qui plus est, le préfet en tant que tel n'a pas le droit d'interdire. Le préfet doit signaler au maire que c'est illégal et ensuite le préfet saisit le juge administratif. C'est le juge administratif qui juge si c'est légal ou pas. Ce n'est pas le préfet. Hein, donc, il y a eu un peu de cafouillage sur ces affaires-là. Mais je veux revenir sur le drapeau ukrainien.
Très vite, s'il vous plaît.
Très vite. Vous parliez des deux poids, deux mesures. Et je pense qu'il y a une question forte, c'est que aujourd'hui, dans l'opinion publique, et on ne parle pas, voyez-vous, que de la guerre à Gaza, on parle aussi de la guerre en Ukraine, en France, énormément. Accepter qu'il y ait sur toutes les mairies le drapeau ukrainien et pas le drapeau palestinien, pour certaines personnes, et elles ne sont pas toutes de la communauté de religion musulmane, eh bien, il y a là deux poids et deux mesures, et ça, ce n'est pas toujours très facile à vivre dans une opinion publique.
Franck Touboul, et après Monique Iborra.
Alors d'abord, un mot rapide sur le drapeau ukrainien et le drapeau palestinien. Les Ukrainiens ont été agressés. Donc ça, c'est déjà une différence considérable qui justifie peut-être une solidarité européenne par rapport à ce sujet. Le deuxième point que je voulais aborder sur la question des drapeaux, c'est l'initiative d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, peut-être sentant que le sol se dérobait sous ses pas sur la question électoraliste et communautariste que Mélenchon a préemptée, s'est dit qu'il allait peut-être pouvoir récupérer quelques voix en proposant cette opportunité, parce que c'est de l'opportunisme pur et dur. Je crois honnêtement que ce drapeau, je vais vous dire la vérité, d'abord, personne ne connaît l'histoire de ce drapeau.
Oui.
Hein, donc les gens n'ont aucune culture sur ce sujet aussi.
Les couleurs, à quoi
c'est un drapeau du califat, ça n'est pas un drapeau des Palestiniens, puisque tant qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de drapeau national. Ils se sont appropriés ce drapeau. C'est un drapeau panarabique d'islamisme et de conquête islamiste, mais il est synonyme pour moi aujourd'hui, comme le Free Palestine est synonyme du sale juif d'aujourd'hui. Quand je marche dans la rue, le nombre de jeunes qui marchent dans la rue et quand ils croisent des gens qui leur crient Free Palestine parce qu'il a une barbe ou quoi, c'est une insulte, c'est pour eux, c'est vécu. Ils le font intentionnellement. Ce drapeau est synonyme d'une agression, il est synonyme de violence, il est galvaudé. En réalité, j'ai plus de peine. Vous savez, un jour, il y a eu un film d'un réalisateur qui s'appelle Georges Benayoun, qui a césarisé, qui a fait plein de films, etc. Il a fait une chronique quotidienne de l'antisémitisme ordinaire à Toulouse. Et il interrogeait un Palestinien. Et ce Palestinien a dit quelque chose d'une intelligence et d'une lucidité extraordinaire, avec des mots très simples. Il a dit, quand je vois tous ces petits blancs là qui manifestent en permanence pour la cause palestinienne et qui collent des autocollants partout, etc., je me dis une chose, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils nous aiment ou est-ce que c'est parce qu'ils vous détestent?
Oui.
Et j'ai trouvé que cette phrase était très simple, mais très, très évocatrice de ce qui se passe dans l'Occident, notamment dans une partie de la gauche occidentale. Est-ce que c'est parce que vous aimez les Palestiniens à ce point ou est-ce que c'est parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ressemble à se débarrasser un peu de la culpabilité occidentale sur la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont charriées derrière cette question de la Palestine, du conflit et du drapeau. Donc moi, j'en termine sur la question du drapeau. Écoutez, c'est à l'État de droit de faire appliquer les choses. Moi, ce n'est pas à moi de savoir. Quand je vois qu'une ou deux communes de Toulouse a choisi de ne pas voter ce drapeau, quand elle a été élue à 40 voix d'écart et qu'elle se dit que peut-être ça peut l'aider à faire la différence, je sais très bien de quelle commune je parle, et Mme Iboura le sait aussi. Voilà, oui. C'est de l'opportunisme.
Moi je ne vais pas...
On va terminer avec vous, Monique.
Oui, bon, je ne vais pas intervenir sur le fait juridique. Non
ouais. Je l'ai fait, ça suffit.
Par contre... Là, moi, je connais bien aussi Olivier Faure. Je sais qu'il est particulièrement doué pour faire des coups politiques, qui ne sont pas toujours d'ailleurs très fins, et qu'on peut traduire. Bien sûr qu'il est intervenu dans cette agitation qu'on connaît, contrairement à l'Ukraine, où l'Ukraine, il y a un consensus en France. Et en effet... Ils ont été agressés. Là, il est intervenu tout simplement. Pour moi, c'est tellement évident. Il est intervenu tout simplement d'une manière électoraliste pour faire plaisir, parce qu'il est quand même embêté d'avoir lâché Mélenchon. Pour faire plaisir à Mélenchon, d'ailleurs, Mélenchon, il a tout de suite répondu en disant « Parfait, c'est très bien. » Non, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, je vous le dis, Annie, aujourd'hui, si j'étais restée au Parti Socialiste, j'en sortirais. J'en sortirais. Parce que les coups politiques, il y en a marre. Mais il y en a vraiment assez, quoi. Je ne reconnais plus ce Parti Socialiste dans lequel j'ai adhéré. C'est des coups politiques avec rien derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais je le dis quand même, alors qu'on doit en effet essayer de trouver des solutions, la seule chose que lui-même demande, plus que d'autres encore, de supprimer la réforme des retraites, il ne demande même pas la suspension, l'abrogation, comme la CGT. Donc, il faut arrêter, quoi. Et donc, cette histoire du drapeau, c'est un coup politique, mais un coup raté en même temps, parce que les gens, évidemment, peuvent comprendre ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça lamentable, je le dis comme je le pense.
Vous pensez qu'au Parti Socialiste, il y a beaucoup de gens qui étaient derrière Olivier Faure pour cette initiative ou qu'il y en a qui seraient contre, mais qui n'osent pas le signaler.
Mais c'est Olivier Faure qui
pense. C'est un désaveu total, parce que je crois que dans tout le pays, il y a 70 mairies qui n'ont pas posé le drapeau.
Sûr.
Et je pense que les socialistes
les
en ont beaucoup plus.
Et heureusement, il y a des militants socialistes qui sont préoccupés, je suppose, et j'espère, par d'autres choses
avec
que les coups
politiques. Avec sincérité.
Franchement.
Bon, eh bien écoutez, cette 201e mêlée de l'info a été très animée, mais bon, le sujet, il est vrai, se prêtait à de l'animation et d'une certaine manière, tant mieux, parce que beaucoup de choses ont pu être dites. Elle est terminée. Merci à tous les trois d'y avoir participé.
Merci à vous.
Bravo à Franck Touboul pour sa première dans cette émission extrêmement énergique. Moi, je suis ravi de vous avoir reçu et je vous réinviterai avec grand plaisir. Je remercie également Coraline Kamebrak à la réalisation.
Merci beaucoup. Qui nous
a fait d'excellents cookies en plus aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Et merci enfin à tous nos auditeurs, aux fidèles et aux nouveaux. Rendez-vous maintenant jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.